26 mars 2018 et voici au quotidien des quotidiens votre revue de presse. Avec vous pour les 90 prochaines minutes, François Brodeur en remplacement d'Hélène Denis. Et oui, je sais, je vous avais promis vendredi qu'Hélène serait là aujourd'hui. À moi aussi, elle l'avait promis. Bon, ceci étant dit, le 26 mars, c'est quand même une date qui revient chaque année, voilà. Ça permet l'histoire de la meubler, semble-t-il.
Au préambule, François. Alors oui, le 26 mars, ce n'est pas la première fois qu'il apparaît sur notre calendrier. Bon, ça fait plusieurs années, bien sûr, mais on va s'arrêter pour l'instant de cette chronique au 26 mars 1832. On peut faire un parallèle avec l'actualité qui a eu lieu ce week-end. En 1832, le 26 mars, premier cas de choléra à Paris lors d'une épidémie qui avait atteint Calais 10 jours auparavant. Donc pas le premier cas de choléra à Paris, mais le premier dans le cadre de cette épidémie. On parle de plus de 18 402 victimes en 6 mois, dont 12 733 dans le seul mois d'avril. Pour Paris, il faut comprendre que c'est un chiffre assez élevé, surtout qu'à l'époque, on comptait moins d'un million d'habitants dans cette ville.
Et rappelons que le choléra a ressurgi à Vancouver. Il y a une souche qui a été localisée en fin de semaine et que c'est une maladie qui est liée aux eaux usées.
Exact. 1885, toujours un 26 mars, le chef métis Louis Riel reprend les armes contre le gouvernement canadien. Il sera capturé, condamné et pendu le 16 novembre suivant. 1921, à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, lancement de la première goélette, baptisée le Blue Nose, le navire qui est aujourd'hui représenté sur les pièces de 10 cents.
Et invaincu dans un nombre incalculable de courses, un magnifique voilier.
1947, bonne nouvelle pour vous François, fin du rationnement de la viande au Canada. 1953, un chercheur américain met au point le premier vaccin contre la poliomyélite, la polio. Donc, 26 mars 1971, le Bengale, qui est dans la partie est du Pakistan à l'époque, proclame son indépendance. L'armée pakistanaise ne pourra empêcher la naissance du Bangladesh. 1972, la Société nationale des chemins de fer français présente le TGV, le train à grande vitesse. 1975, entrée en vigueur de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques. 1989, toujours un 26 mars, Yasser Arafat est nommé président de l'État palestinien. 1992, à Indianapolis, le boxeur Mike Tyson écope de 6 ans de prison pour viol. 1997, la police découvre dans une résidence de San Diego, en Californie, les corps de 39 personnes âgées de 26 à 72 ans. Tous membres de la secte Heaven's Gate, qu'on peut traduire par les portes du paradis, qui se sont donné la mort à l'aide d'un mélange de barbiturique et d'alcool pour que, citation, « leurs âmes rejoignent un vaisseau spatial caché dans la queue de la comète Hale-Bopp ».
Fin de la citation.
26 mars 2000, et ça fait encore partie de notre quotidien, n'affrontant pas de véritable opposition, Vladimir Poutine remporte l'élection présidentielle en Russie. Plus ça change, plus c'est pareil. 2003, Pékin avoue avoir dissimulé l'épidémie du SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Et 26 mars 2005, reprise de la série télé Doctor Who, cette télésérie britannique qui reprend l'antenne après 16 ans d'absence, mais qui, outre cette absence de 16 ans et qui est toujours en onde aujourd'hui, est en onde depuis 1963, ce qui en fait une des téléséries les plus, avec la plus longue durée de vie de la télévision.
Et au nombre de mes plaisirs coupables, je me déclare fan fini du docteur, voilà.
Naissance en ce 26 mars, toujours pour vous faire plaisir, François, naissance en 1963, le 26 mars du chanteur néo-brunswickois Rock Voisine, et décès en 1827 du compositeur allemand Ludwig van Beethoven.
Eh oui, l'histoire qui est source de leçons, mais rarement de réconfort. On passe immédiatement à la presse et on enchaîne sur un sujet qu'on avait abordé vendredi, le REM. Patrice Bergeron signe un texte intitulé « REM, la grogne monte dans les grandes villes de banlieue ». Elle proteste contre le mécanisme de tarification imposé par la Caisse de dépôt et de placement et craignent l'explosion des coûts à long terme au détriment des contribuables. Elle reproche aussi à la Caisse son opacité quant à ses projections sur 20 ou 30 ans. Dans une entrevue avec la presse canadienne diffusée dimanche, une source proche du dossier a dénoncé avec véhémence l'entente qui a été conclue entre le REM et l'Agence régionale de transport métropolitain, la RTM. Celle-ci a été avalisée par les élus de la région lors d'une réunion récente de la RTM, malgré l'opposition des villes de Longueuil et de Laval. Selon cette source confidentielle qui a été impliquée dans les discussions, la Caisse a toujours imposé ces conditions qui ne sont pas à l'avantage des usagers. Chez tout le monde, même les gens qui ont voté pour, il y a un sentiment que les gens sont bulldozés, a-t-elle évoqué. La ville de Laval va subir des impacts de l'entente, mais Longueuil sera encore davantage frappée de plein fouet, 50 fois plus que Laval. Cette source haut placée, dont on ne peut dévoiler l'identité, s'attaque entre autres au système de tarification mis en place par la Caisse. La presse canadienne a obtenu tout récemment une section de l'entente confidentielle qui porte sur le mécanisme tarifaire. Le tarif est de 72 sous du kilomètre par passager à payer par la RTM au REM. Par exemple, si 1000 passagers font 10 km, la RTM verserait 7 200 $. Le document prévoit l'indexation annuelle non seulement des coûts d'exploitation pour le tiers du 72 sous, mais aussi du capital et du rendement pour les deux tiers restants. C'est un non-sens, selon cette source, comme si on soumettait une hypothèque à une indexation annuelle. C'est une façon déguisée de faire monter rapidement le tarif. Les 72 sous vont être en mode ascenseur. De plus, une autre méthode d'indexation permet à la Caisse d'augmenter la facture basée sur la variation de son panier d'obligations. Bref, si le rendement de ses placements sur les marchés est plus élevé que celui du REM, la Caisse veut être compensée pour la différence. Et c'est le gouvernement, à 85% et les municipalités à 15%, qui devront payer la facture totale qui se chiffrera en millions de dollars. Mais 15% de quoi? Les villes sont tenues dans l'ignorance. Elles ont demandé des projections sur 20 ans, mais se sont fait répondre que la Caisse n'avait pas fait le calcul. C'est une absence de transparence complète, estime le haut responsable. C'est clair qu'ils ont les chiffres. On dit qu'il va y avoir de la collaboration pour la suite des choses, mais si on regarde comment tout s'est passé, il n'y a pas eu beaucoup de collaboration. La Caisse a toujours bulldozé et a eu tous les privilèges. Il est aussi impossible de savoir comment le déficit annuel du REM sera partagé au prorata du nombre d'utilisateurs selon leur ville d'origine, qui paiera donc la part qui lui revient, ou plutôt ligne par ligne. Renseignements partiels, consultations et négociations dans la précipitation. La RTM a négocié avec le couteau sur la gorge, soutient cet interlocuteur impliqué dans le processus. On a été peu écouté, ça s'est fait de façon cavalière. Les élus des couronnes n'ont eu aucun pouvoir, a-t-il poursuivi, et le gouvernement libéral a fait pression pour imposer le cadre de la Caisse. Les gens de la RTM ont été complètement écartés. S'ils tenaient leur bout, ils se faisaient rappeler à l'ordre par le gouvernement, a déploré notre source. Selon elle, le premier ministre Philippe Couillard en personne veut absolument que le projet se réalise dans cette forme, aux conditions édictées par la Caisse. C'est le projet que le premier ministre veut voir se réaliser et il va se réaliser à tout prix. Dans l'actualité aujourd'hui, on parlait également d'un différend entre Québec et Ottawa sur une nouvelle norme dans les évaluations environnementales qui imposerait au gouvernement de faire la place au savoir autochtone. Or, le gouvernement du Québec s'est interrogé parce que parfois le savoir autochtone vient en conflit avec le savoir dit scientifique. Lequel des deux on devrait prioriser, dans quelles circonstances? Je vous dis ça parce qu'un texte de Pierre Gingras sur la chasse aux caribous aujourd'hui m'a beaucoup interpellé. Des caribous protégés, toujours chassés, c'est le titre. La situation a même incité Johannes James, grand chef de la nation inuit Nunatsiavut du Labrador, à dénoncer publiquement à la fin de janvier l'attitude des chasseurs. Il a accusé les Inuits du Labrador d'avoir trahi l'entente, de manquer de respect envers les autres nations autochtones qui ont traditionnellement compté sur le troupeau de la rivière George, pour leur subsistance et de mettre en péril la survie même de la harde. Monsieur James a affirmé que les membres de la Innu Nation avaient abattu des caribous cet hiver et qu'ils avaient l'intention de poursuivre la chasse même si elle est officiellement interdite. Plus récemment, les Naskapis de Kawawashikamak, près de Schefferville, des signataires de l'entente, ont abattu une quarantaine de bêtes, alors que les Inuits de Matimekosh-Lac-John, établis à Schefferville, en ont situé une soixantaine, dont plusieurs femelles. Le grand chef de Matimekosh, Chani Ambroise, a indiqué à la presse que tous les caribous abattus avaient été distribués parmi les membres de la communauté. Il n'y a eu aucune perte. Même les os et les peaux ont été récupérés. D'ailleurs, la nation Innu de Matimekosh n'était pas partie prenante à l'entente. Le nombre de bêtes allouées à chaque nation n'a jamais été établi. Pour sa part, Steve Côté, professeur titulaire à l'Université Laval et directeur du groupe de recherche Caribou Ungava, a été renversé d'apprendre que les Autochtones de la région avaient chassé le caribou cette saison. Pourtant, ce sont justement eux les premiers touchés par le déclin, déplore-t-il. Il existe deux troupeaux de caribous migrateurs au Québec, celui de la rivière aux Feuilles, qui compte 209 000 têtes, selon l'inventaire réalisé l'automne dernier, et celui de la rivière Georges, plus à l'est, qui vit un déclin dramatique depuis plusieurs années. Considéré dans les années 90 comme le plus important troupeau au monde avec ses 800 000 têtes, la harde de la rivière Georges ne compte plus que 400 000 bêtes en 2000, mais on en dénombrait à peine 74 000 10 ans plus tard et 8 900 lors de l'inventaire réalisé en 2016, un précédent historique selon certains biologistes. Les causes du déclin sont attribuables en partie à la dégradation de l'habitat en raison d'une surpopulation, à la prédation et à la chasse excessive. Par exemple, le lichen prisé par le caribou met plusieurs décennies à se régénérer après avoir été brouté. Si l'habitat semble actuellement s'améliorer en raison de la réduction du nombre de caribous, la chasse autochtone se poursuit toujours, même si le troupeau est officiellement protégé depuis 2012 au Québec et 2013 au Labrador. D'où vous pouvez voir mes inquiétudes quant à l'étendue du savoir autochtone. C'est périodique, ça revient régulièrement dans l'actualité, des expulsions qui déchirent le cœur de gens qui voudraient rester au Canada et qui sans doute le mériteraient. Encore un cas nous est rapporté par Audrey Ruel-Manceau. Expulsion imminente d'une Guatémaltèque, nous ne savons plus quoi faire. Mardi, une Guatémaltèque sans papier sera expulsée vers son pays d'origine. Arrêtée la semaine dernière par l'Agence des services frontaliers du Canada et détenue depuis, Lucie Francinette Granados n'a plus comme seul espoir qu'une intervention d'urgence d'Ottawa. Dimanche, sa famille et des représentants de différents organismes communautaires ont lancé un cri du cœur aux instances gouvernementales, les suppliant de laisser Lucie rester. Sept personnes sont alignées derrière une table, faisant face aux médias, réunies au Centre des travailleurs et travailleuses immigrants. Tout au bout, deux femmes d'origine guatémaltèque ont la mine basse et les yeux vitreux. Lucie et leur nièce. « Nous avons les mains liées et nous ne savons plus quoi faire. » Nous demandons de la compassion, qu'on lui accorde au moins le temps qu'elle reçoive la réponse à sa demande de résidence permanente de l'Agence des services frontaliers du Canada, déplore sa tante, Yesenia Granados, dont les propos en espagnol entrecoupés de sanglots sont traduits par un interprète. Arrivée au Canada en 2009, Lucie Francinette Granados a déposé en septembre dernier une demande de résidence permanente pour motif d'ordre humanitaire. Sa demande de statut de réfugié lui ayant été refusée en 2012, un avis d'expulsion auquel elle refusait de se conformer lui pendait au-dessus de la tête depuis ce temps. Mardi, lors d'une arrestation qualifiée de musclée et violente par ses proches, l'agence a mis son avis à exécution. Son expulsion doit avoir lieu mardi. L'agence ne confirme pas les dates de renvoi pour des raisons juridiques et de sécurité, a répondu à la presse Jacqueline Roby, porte-parole de l'agence. Nous pouvons vous dire que Lucie Granados est visée par une mesure d'expulsion depuis le 9 septembre 2011, dit-elle. L'information que nous avons à propos de cette arrestation ne correspond pas à la vôtre. Les agents de l'agence sont responsables d'agir en tout temps d'une manière professionnelle.
te caches dans la brume. Tu te croyais libre de sa prison, mais elle s'approche, tu l'entends, elle est sur tes talons. Il y a des années, ton cœur était à elle. Elle t'a charmé, tu l'as trouvée si belle. Tout a changé, t'as vu son vrai visage. Et tu t'es retrouvé enfermé dans sa cage. Et là tu cours comme un fugitif, recherché mort ou vivant, avec un prix sur sa tête et le courage dans son sang. Viens te réfugier au pays de la liberté. Dans le bain, t'attends de la quille. Tu ne pouvais sortir que les chaînes aux chevilles. Comme un gros boulet, tu la traînais derrière. Elle était lourde, 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 tu ne pouvais t'en défaire. Tu as creusé, creusé, un tunnel sous le mur. Tu as grimpé, grimpé par-dessus la clôture. Sonnaient les sirènes, aboyaient les chiens. Il était trop tard, tu étais trop loin. Et là tu cours comme un fugitif, recherché mort ou vivant, avec un prix sur sa tête et le courage dans son sang. Viens te réfugier au pays de la liberté.
Rompe rapido las cadenas de la prisión. Deja el peso que está en tu corazón. Abre tus alas y vuela, vuela. No mires hacia atrás y entra, entra en el país del amor, país de la amistad, país de la paz, país de la libertad, la libertad.
Caché, caché dans tous les bas-fonds. Tu as changé, changé, changé de nom. Chaque fois que tu tentes de repartir à zéro, la voilà qui s'approche, elle te saute dans le dos. Déjà j'ai marché, marché dans tes souliers. J'étais captif, mais je me suis libéré. Saute dans le vide, fais ta prière. Viens me rejoindre, traverser la frontière. Il faut que tu cours comme un fugitif, recherché mort ou vivant, avec un prix sur sa tête et le courage dans son sein. Viens te réfugier au pays de la liberté. Oh, la liberté.
Damien Robitaille qui nous offrait au pays de la liberté.
Et c'est déjà le moment d'aborder le devoir où on fait état d'énormément de nouvelles internationales. On commence immédiatement pour parler de Carlos Puigdemont. Carlos Puigdemont, vous vous rappellerez qu'il s'agit du président de la Catalogne qui avait conduit cette région autonome d'Espagne vers un référendum déclaré illégal sur sa souveraineté. Et il a été arrêté en Allemagne en fin de semaine. L'Allemagne qui devra décider si oui ou non elle l'extrade vers Madrid où il serait passible de 30 ans d'emprisonnement. Bon, maintenant que je vous ai beaucoup raconté les faits, je vais vous raconter une opinion, celle de la chronique de François Brousseau, qui est chroniqueur d'information internationale à ICI Radio-Canada, mais qui l'a publié dans les pages du Devoir. Son titre, « Écrasez-les ». La main lourde espagnole, mue par l'intransigeance dogmatique et le fétichisme judiciaire, est-elle en train de venir à bout de l'indépendantisme catalan, décrit à Madrid comme illégal parce qu'illégitime et illégitime parce qu'illégal? Coup de massue après coup de massue, le gouvernement espagnol a réussi à étourdir les nationalistes de Barcelone et à semer le désarroi dans leurs rangs, même si ces derniers représentent toujours la moitié de l'opinion publique catalane. Cette opinion s'est démocratiquement exprimée à de nombreuses reprises, la dernière fois lors des élections régionales anticipées du 21 décembre 2017. Les trois partis pro-indépendance avaient alors obtenu environ 48% des voix et un peu plus de la moitié des sièges au Parlement régional. On verra ce que la justice allemande fera du détenu Carl Puigdemont, l'ex-président en exil arrêté hier dans le nord de l'Allemagne, et s'il sera, oui ou non, extradé comme l'exigent les autorités espagnoles. Il est possible que l'extrémisme judiciaire de Madrid, avec ses termes comme « sédition » et « rébellion », ne soit pas bien reçu dans toutes les cours d'Europe. Mais la logique sous-jacente, elle, est impitoyable. Devant la menace du séparatisme, il faut frapper, poursuivre, arrêter, discréditer, vilipender et frapper encore, et non pas, par exemple, faire un référendum et militer pour le non. Cette stratégie du pilonnage et du mur est très populaire chez les Espagnols non catalans qui applaudissent et en redemandent. Écrasez-les. Ces jours-ci, il suffit de lire, par exemple, l'August El País, quotidien de référence espagnol. Aujourd'hui, complètement déchaîné, il fait un usage quasi pavlovien de mots comme « haine »,« mensonge », »,« fuite », dès qu'il est question des leaders catalans. Mais aussi, cette stratégie de l'assommoir est peut-être en train d'arriver à ses fins au sein des troupes indépendantistes complètement sonnées, de plus en plus divisées et sans plan pour l'avenir. La semaine dernière, après des mois de détention dite « préventive », 5 mois sans procédure formelle ni accusation précise, les responsables catalans emprisonnés et d'autres sur le point de l'être ont appris qu'ils auraient un procès pour leur tentative référendaire avortée du 1er octobre dernier. Le juge du tribunal suprême, chargé de l'enquête sur la tentative de sécession, a formellement inculpé vendredi 13 Catalans pour rébellion, crime passible en Espagne de 30 ans de prison. Dans son texte de 70 pages, le juge Pablo Larena, sorte de Torquemada antiséparatiste, a parlé d'une attaque contre l'État d'une gravité sans comparaison dans les démocraties proches, d'un soulèvement violent, insurrection, levantamiento, au cours duquel le gouvernement de Barcelone se serait rendu coupable notamment d'avoir encouragé la résistance à la police. Presque rien, cependant, sur la violence policière de ce fameux 1er octobre 2017, avec ces images largement relayées d'une guardia civile matraquant des honnêtes gens qui essayaient de voter et qui, dans bien des cas, ont réussi à le faire. Cette violence-là, dans l'acte d'accusation, n'est qu'à peine évoquée, présentée comme la légitime défense d'un État central menacé par la subversion. Peu avant son arrestation, Carl Puigdemont avait répondu à cet acte d'accusation. « On essaie de faire passer pour violents ceux qui ont organisé les manifestations les plus pacifiques et les plus massives de toute l'histoire récente de l'Europe, ce qui est factuellement exact. Mais il est clair que le rouleau compresseur madrilène désorganise le mouvement indépendantiste. À Barcelone, la semaine dernière, on a une nouvelle fois en vain tenté d'investir un président. » Avec les absents, exilés ou emprisonnés, dont plusieurs sont aussi députés, la majorité était de 69 voix. Or, le candidat Jordi Turull n'en a obtenu que 64. Convoqué vendredi par le juge Larena, Marta Rovira, numéro 2 du Parti gauche républicaine, a annoncé qu'elle quittait l'Espagne plutôt que de se rendre à la justice. « Je sens, a-t-elle dit, ma liberté d'expression censurée par des tribunaux qui intimident et appliquent sans vergogne des critères politiques. » Justice politisée et tendancieuse à Madrid, l'accusation ne vient pas que des nationalistes catalans. Amnesty International et d'autres organismes ont aussi évoqué ce danger qui guette l'Espagne. Qu'en diront les autres pays d'Europe? La nouvelle réconfortante de la fin de semaine, si vous l'avez regardée à la télé, c'était ces manifestations monstres pour qu'on en vienne à bout des armes aux États-Unis, à tout le moins des armes automatiques qui ont causé des tueries récentes. La caricature et un texte du Devoir portent là-dessus. La caricature de Pascal Elie d'abord, qui est absolument magistrale. On y voit 4 jeunes en train de planter un drapeau, un peu comme les soldats l'avaient fait à Iwo Jima dans une photo qui est restée célèbre. Sauf que le drapeau, il le plante devant le Capitole et c'est un drapeau qui porte sur l'interdiction des armes d'assaut. Un titre, « Aux États-Unis, une jeunesse, l'arme au poing », sans apostrophe l'arme. Isabelle Anne, de Libération, à Washington. À Washington, samedi, une manifestation historique contre les armes à feu menée par les élèves rescapés de la tuerie survenue dans une école secondaire de Parkland en Floride a réuni près de 800 000 personnes. Cette nouvelle génération d'activistes entend faire valoir son poids politique aux prochaines élections de mi-mandat. Samedi après-midi à Washington, une adolescente au crâne rasé, aux jeans déchirés, a fait respecter un silence de plusieurs minutes à près de 800 000 personnes selon les organisateurs. Moment incroyable, suspendu, que cette foule, stoïque et muette, les mains levées, les doigts en V. En tout, Emma Gonzalez et ses larmes sont restées sur scène 6 minutes et 20 secondes, le temps qu'a duré la fusillade dans son école secondaire de Marjorie Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, le 14 février, où 14 élèves et 3 professeurs ont trouvé la mort. Puis elle a quitté la scène sur cette phrase « Battez-vous pour vos vies avant que quelqu'un d'autre ne doive le faire à votre place ». En un peu plus de 5 semaines, l'idée qui avait germé dans la tête de quelques élèves traumatisés s'est transformée en manifestation historique. La March for Our Lives, mobilisation pour un durcissement du contrôle des armes à feu aux États-Unis, financée par des célébrités comme Oprah Winfrey et le couple George et Amal Clooney, s'est imposée comme une démonstration de force et de détermination. En plus de Washington, plus de 800 marches ont eu lieu dans le pays. À New York, ils étaient 175 000 dans les rues, selon le maire Bill de Blasio. Sur l'estrade érigée près du Capitole, où siège un congrès paralysé sur la question des armes depuis des décennies, ont défilé chanteurs populaires, élèves de Parkland et d'autres établissements touchés par les fusillades. Donnant également la parole à des anonymes, les organisateurs ont su rappeler que la question des armes aux États-Unis ne se résumait pas à sa forme la plus spectaculaire, ces tueries de masse, notamment en milieu scolaire, mais à une violence quotidienne de rue, de règlement de compte, de coups de sang, de suicides qui touchent avant tout les quartiers défavorisés, noirs et hispaniques. Aux États-Unis, 30 000 personnes meurent chaque année par arme à feu. Une courte pause et on se retrouve de l'autre côté pour aborder le Journal de Montréal. Restez avec nous.
Car mon cœur, quand vient la lune, se trouve seul devant lui-même, comme le vent s'amusait. Je ne suis pas sans regret. Pourquoi faut-il que l'amertume ne s'en tienne pas qu'aux agrumes? Mon lit est comme un désert, un désarroi que je souhaite temporaire. Je ne crains que mon courage, jour après jour, je poursuis mon bonheur. Et jamais je ne désespère de trouver sur mon chemin quelque chose de malin, un peu d'amour. Bien frais, sous les cieux plus heureux. La vie est un court voyage où je ne crains que mon courage. Jour après jour, je poursuis mon bonheur. Jour après jour, je poursuis mon bonheur.
C'était donc Daniel Bélanger qui poursuit son bonheur.
S'il y avait un mot d'ordre dans les choix éditoriaux du Journal de Montréal, aujourd'hui, ce mot serait justice. Et on commence immédiatement en vous parlant de l'arrêt Jordan. L'arrêt Jordan, je vous le rappelle, c'est cette décision de la Cour suprême qui a décidé que si on ne pouvait pas juger un accusé dans un délai raisonnable, et on disait 30 mois en Cour supérieure, 18 mois en Cour du Québec, eh bien, cet accusé, on devait le libérer parce que c'était cruel de faire peser des menaces sur quelqu'un qui était présumé innocent. Le problème, c'est qu'en libérant des gens comme ça, on fait une autre catégorie de victimes, c'est-à-dire les gens qui ont porté plainte et qui voient bien que justice ne sera finalement pas rendue. Alors, ce qui est particulièrement intéressant ces temps-ci, c'est qu'on voit des victimes poursuivre Québec parce que Québec ne fait pas son travail d'aller chercher des jugements, bref, de mener à terme dans des délais raisonnables des poursuites pénales. Tout ceci pour vous dire, et c'est le titre de Nicolas Saillant, la présumée victime de l'ange Daniel sort de l'ombre et poursuit le directeur des poursuites criminelles et pénales. Après avoir vu son beau-père être libéré des accusations d'agression sexuelle en vertu de l'arrêt Jordan, une femme accepte maintenant de sortir publiquement pour inciter les autres victimes de délais déraisonnables à s'inscrire avec elle à un recours collectif afin de poursuivre le directeur des poursuites criminelles et pénales. Alléguant avoir été agressée sexuellement de 14 à 22 ans par son beau-père qui se présentait comme l'ange Daniel, Joanie Véraud estime n'avoir jamais obtenu justice. En raison d'un délai de 75 mois jugé déraisonnable par l'arrêt Jordan, son beau-père, Michel Mercier, a vu les accusations tomber. Insultée par cette décision, Joanie refuse maintenant d'en rester là. Fort de la poursuite intentée par Isabelle Lévesque contre le DPCP, la jeune femme a fait lever l'ordonnance de non-publication qui interdisait de dévoiler son nom afin de se lancer dans une nouvelle bataille judiciaire à visage découvert, cette fois contre le DPCP avec une poursuite civile. L'avocat Marc Bellemare, qui assiste Joanie dans son combat, rappelle que le responsable de ce cafouillage judiciaire n'est pas l'arrêt Jordan, mais le directeur des poursuites criminelles et pénales. Ce n'est pas à cause de Jordan que l'accusé s'en sort, ce n'est pas vrai, c'est à cause de la négligence du DPCP à mener à bien des accusations. Si on se tait, ils ne changeront jamais. Si on lève la main, que d'autres personnes lèvent la main sur les injustices, c'est là qu'ils vont bouger, fait valoir Joanie. Selon Maître Bellemare, le procureur général est responsable d'une deuxième agression lorsqu'on abandonne la victime et qu'il n'y a pas de reconnaissance judiciaire. Il tient cependant faire la distinction entre le travail des procureurs individuellement, puisque le syndicat demande régulièrement plus de moyens, et l'institution du DPCP. Malgré la difficulté du processus, Joanie souhaite se faire la porte-parole des victimes de Jordan. « On va se tenir ensemble, c'est la beauté de la chose. Ça nous permet de nous lever debout et de dire qu'on y va, plaide-t-elle afin de convaincre d'autres victimes de se joindre à elle. » Et ça sera donc une affaire à suivre. Et tout ceci pose la question des ressources allouées à la justice, qui est souvent la grande perdante des budgets qui se suivent et qui consacrent tout soit à la santé, soit à l'éducation. Catherine Lamontagne signe quant à elle un texte intitulé « Un grand espoir pour la justice » selon le Barreau du Québec. Le prochain budget du gouvernement Couillard est celui du grand espoir aux yeux du Barreau du Québec, qui souhaite ardemment y retrouver plusieurs millions de dollars afin d'entamer le tant attendu virage numérique du système judiciaire. Pour nous, le budget qui s'en vient, c'est le budget du grand espoir en justice, lance avec assurance le bâtonnier du Québec à quelques jours du dépôt du prochain budget provincial. Maître Paul-Mathieu Grondin réclame entre 400 et 600 millions de dollars uniquement pour informatiser la justice, une mesure qui ferait sauver temps et argent aux contribuables, dit-il. On est beaucoup ici à se croiser les doigts. C'est le plus proche d'un momentum qu'on a été depuis longtemps, soutient-il. Il faudra des investissements massifs pour espérer sortir l'appareil judiciaire de l'âge de pierre, plaide-t-il. À l'heure actuelle, il est impossible d'ouvrir un dossier de cour, de payer des frais ou de déposer des documents numérisés à partir d'un ordinateur, rappelle-t-il. Il y a beaucoup de bureaux d'avocats qui sont entièrement informatisés et numérisés, mais quand vient le temps d'aller à la cour, il faut qu'on imprime tout. Ça n'a aucun sens. Il est temps que ça cesse. Il faut qu'on y aille à 100%. Il faut qu'on y aille maintenant. Il est temps qu'on bouge, scande Maître Grondin. En septembre dernier, des juges et des avocats dénonçaient en nos pages l'archaïque système judiciaire en vigueur au Québec. Le journal rapportait du coup que le ministère de la Justice avait investi moins de 2 millions au cours des 4 dernières années pour le moderniser. C'est qu'aucun plan gouvernemental n'a été dévoilé depuis le cuisant échec du système intégré d'information de justice initié en 2001, prévu pour 2007 et finalement abandonné en 2012 après un gaspillage de 76 millions. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, assurait toutefois qu'une telle mesure serait divulguée au printemps, qui s'est entamée la semaine dernière. Maître Paul-Mathieu Grondin demeure persuadé que Québec a les outils nécessaires pour réussir son virage numérique. Il faudra toutefois éviter les erreurs du passé. On a l'expertise au Québec, on est capable de le faire. Bien sûr, il faut apprendre des exemples précédents, analyse-t-il. Il ne faut pas qu'on répète les échecs du passé, c'est évident. Encore de la justice sociale, celle-là, Sarah Daou Brown nous parle, et c'est le titre, « Une nouvelle patrouille pour veiller sur les sans-abri de Montréal ». Une nouvelle patrouille arpente depuis plus d'un mois les rues du centre-ville de Montréal pour écouter et veiller sur les itinérants à coups de sandwich et de câlins. Souriez et ayez du plaisir. Je sais qu'ils ont besoin de nous ce soir avec la mauvaise température, a conseillé Al Harrington à sa meute de 8 volontaires réunis sur l'avenue Atwater, près de l'ancien forum, lors du passage du 24 heures, un mardi enneigé. Le Wolfpack Patrol patrouille 3 soirs par semaine sur la rue Sainte-Catherine d'ouest en est de 20h à minuit. La troupe fournit des denrées aux sans-abri, comme des biscuits du jus à Steven qui quête à la station Peel, ou une trousse de produits hygiéniques à Daniel qui campe de son côté à la station Place des Arts. Les bénévoles sont aussi là pour écouter les plus vulnérables qui doivent passer la nuit dehors au froid. Je suis heureuse quand je les vois arriver. Ce sont de bonnes personnes et ça me réconforte, a souligné Maria Blacksmith, une femme itinérante crie. Cette volonté d'aider les autres a d'ailleurs donné la piqûre à la bénévole Shalina Kolistidas, 18 ans, qui désire travailler auprès du peuple inuit dans le Nord. Elle est tout de même parfois ébranlée par les nombreuses scènes de violence qui se déroulent dans la rue. « Tu vois des gens qui font de la drogue devant toi, tu vois beaucoup de femmes qui font de la prostitution. » Le conseiller de ville Sterling Downey, bien au courant du dossier sur l'itinérance, a salué cette nouvelle initiative. Je trouve cela génial. Ces gens bâtissent des relations de confiance avec les personnes en situation d'itinérance. C'est ce lien de confiance-là qui va faire une différence. Le Wolfpack Street Patrol a été mis sur pied par Al Harrington, un ancien travailleur du Centre d'amitié autochtone de Montréal. Ce dernier s'est inspiré du Bear Clan Patrol, une initiative similaire basée à Winnipeg, au Manitoba, pour monter son projet. « J'ai été sans-abri et je suis au courant des besoins qui sont pressants », a-t-il confié, souhaitant agir rapidement, il y a un mois, sans nécessairement attendre des fonds des institutions. « J'ai parlé avec des policiers il y a 2 semaines. Selon eux, l'itinérance ne va pas régresser, mais plutôt augmenter d'ici les 2 prochaines années. D'entendre ça d'un policier, c'est assez épeurant », a-t-il ajouté. L'homme d'origine ojibwé, qui a grandi dans une famille d'accueil, a sombré dans l'alcoolisme et la toxicomanie vers l'âge de 22 ans. « Je suis allé vivre chez ma sœur à Thunder Bay en pensant que ça allait aider, mais pas vraiment. Elle m'a mis dehors en plein hiver, je ne savais pas où aller », s'est-il souvenu, vivant plusieurs hauts et bas jusqu'à l'âge de 28 ans. Al Harrington a d'ailleurs mis sur pied une campagne de financement sur le site UKRing afin d'amasser 4 500 $ pour acheter entre autres des sacs de couchage, des chaussettes et des tapis de yoga pour les itinérants qui en ont besoin. Il caresse le rêve que sa meute de loups puisse un jour patrouiller 365 soirs par année pour veiller sur ceux qu'il doit laisser avec tristesse derrière lui. Plus peur que de mal pour les passagers d'un vol d'Air Canada à destination de Washington. L'agence QMI nous parle d'un avion d'Air Canada qui atterrit d'urgence. Un avion d'Air Canada en route vers Washington a fait un atterrissage d'urgence dimanche soir en raison de la présence de fumée dans le cockpit. L'avion a décollé de Toronto vers 17h pour se rendre à l'aéroport Ronald Reagan à Washington. Au bout d'une heure de vol, l'équipage a annoncé aux voyageurs que l'avion devait atterrir d'urgence, a raconté l'un des passagers au Toronto Star. Une quinzaine de minutes plus tard, les 63 passagers étaient évacués à l'aide d'une glissière d'évacuation sur le tarmac de l'aéroport de Washington Dulles avant d'être amenés au terminal principal. L'avion a atterri en toute sécurité et personne n'a été blessé, a indiqué un porte-parole de Sky Regional qui exploite Air Canada. Andrew Troll, un porte-parole de la Metropolitan Washington Airports Authority, a affirmé au Washington Post qu'aucun feu n'avait été trouvé à l'intérieur de l'appareil. La fumée pourrait avoir été causée par un court-circuit dans le cockpit.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Qui est comme à la crête, tout détonné, tout me plaît. Les mains sont livides, vides, vides. Mains sont livides, vides, vides. Le sol de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié. Ah, mes solitudes immenses, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré. Tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Kiss my station. Ooh, 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 ooh. And if you say just follow, I'll stay with you. Kiss my station. Kiss my station. Ooh. La belle attitude de ma patience comme certitude collée à trois fils, 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 liée à trois fils, fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. Ooh, 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 ooh. And if you say just one word.
Belle pièce de 2013, c'est un extrait de Christine and the Queens, la pièce Saint-Claude.
Actualité régionale, on commence par le Soleil de Québec, où l'on apprend notamment que les premières étapes du procès d'Alexandre Bissonnette vont bientôt commencer avec l'audition des requêtes préliminaires, c'est-à-dire arranger toute la poutine du procès, si vous me passez l'expression, après quoi on devrait choisir le jury et finalement procéder au procès. À savoir, le juge en charge de l'affaire a demandé au shérif, parce qu'il y a un officier du palais de justice qui s'appelle le shérif, de convoquer beaucoup plus de jurés que ce qu'on fait d'habitude pour ce procès, parce que ça va être difficile de trouver des gens qui n'ont pas d'opinion préformée. Bon, maintenant que je vous ai parlé de ça, je vous ramène à Mylène Moisan et je me fais plaisir avec un texte intitulé « Le diplôme et la médaille ». Pas d'effort à l'école, pas de basket. Simple de même. On réfléchit beaucoup à l'école ces temps-ci. On va voir ailleurs ce qui se fait. On a même mis un architecte et un cuisinier sur le dossier. À l'école secondaire de Vanier, qui était une des pires de Québec, on a mis les entraîneurs dans le coup. On s'est arrêté 2 minutes. On a bien vu que ce qui tenait les jeunes, souvent, c'était le sport. On s'est dit qu'on allait se servir du sport pour que les jeunes se prennent en main. Le programme « Le diplôme avant la médaille » (dame pour les intimes) en est à sa 6e année. Le taux de décrochage est passé de 54 à 27 %. Thierry Cayetana a entraîné l'an dernier l'équipe de basketball des filles de 2e et de 3e secondaire. Il s'est retrouvé devant 10 élèves qui avaient juste le goût d'être ailleurs sans trop savoir où. Du lot, 4 parlaient très peu français, passés pour comprendre Thierry. La majorité était en situation d'échec. Au début, quand je suis arrivé, elle me traitait un peu comme un suppléant. Elle confrontait mon autorité, elle me testait. Je m'attendais à ça. Je devais faire une équipe avec elle. Ça n'allait pas être facile. Il avait 6 mois pour y arriver, à raison de 2 pratiques et 1 match par semaine. Il a dû parfois hausser le ton et se faire respecter. J'avais lu une entrevue de Glenn Constantin qui disait qu'un coach doit accepter de ne pas être aimé, que son but est d'être respecté. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne prend pas des décisions pour être cool, mais en pensant l'équipe. J'insistais beaucoup sur la ponctualité, le langage et la politesse. Ce n'était pas très populaire, mais essentiel. Il a dû surtout créer une chimie qui n'existait pas. Il y a eu des clashs entre certaines filles. Il y en a qui sont venues me voir pour me dire qu'elles voulaient abandonner, qu'elles n'arrivaient pas à se sentir une telle. Je leur disais, va au moins jusqu'au bout de la saison et tu verras après. Si au moins on gagnait des matchs, se disait Thierry. Et à un moment donné, ça a fait comme dans les films. Les filles en ont gagné un et un autre. Le vent a tourné autour de la fin février, début mars. Les filles étaient plus disciplinées, leur attitude a changé. Il y a eu plein de petits miracles sur le terrain. Elles avaient l'impression de faire partie de quelque chose. Elles ont développé un sentiment d'appartenance. Et c'est là le pari du dame. Leurs notes ont monté. Elles ont travaillé plus fort avec leur tuteur pour avoir plus de temps de jeu. Il faut qu'elles fassent signer leurs travaux par les profs et le cahier de suivi par les tuteurs. Si par exemple tu as juste vu un prof, tu joues le quart du match. Si tu as vu tous les profs, tu joues tout le match. Si tu ne vas pas à ta rencontre avec le tuteur, tu ne joues pas. C'est hyper renforcé. Les jeunes le faisaient, elles avaient envie de jouer. Thierry n'était pas juste un coach. J'avais accès au dossier des élèves. J'ai même participé aux rencontres des parents avec les professeurs. Je sentais que je faisais partie de la solution. Des 10 filles, un peu perdues du début, certaines se sont métamorphosées. J'ai vu des transformations incroyables. Il y a une fille qui était vraiment introvertie. Elle est devenue ouverte aux autres, articulée, confiante en elle. J'ai bon espoir que plusieurs des filles que j'ai coachées vont avoir leur diplôme d'études secondaires. Ce sera leur vraie victoire. Thierry est bien placé pour le comprendre. Né au Burundi en 83 de parents qui ont fui la guerre du Rwanda, le petit Thierry est arrivé à Québec à 3 ans. J'ai grandi dans les HLM de Bardi. J'ai appris à jouer au basket à 5 ou 6 ans. J'étais le petit gars sur le bord du terrain. Je jouais avec des adultes. Le basket était le centre de mon univers. Pas l'école. Je n'avais pas la tête à étudier. J'étais toujours dans la lune. Je n'avais pas des super bonnes notes, surtout au secondaire. Quand ça allait mal à l'école, mon coach me disait d'aller chercher de l'aide. Mais je n'y allais pas. Je ne pensais qu'à mes performances sportives, pas à mon avenir. Il ne savait pas, alors, que l'avenir peut être aussi brillant qu'une médaille. « Nouvelle rassurante et inquiétante à la fois. Rassurante puisque, enfin, oui, Justin Trudeau confirme que Lac-Mégantic aura sa voie de contournement pour le chemin de fer qui, on le sait, a déraillé, causé de nombreux morts dans cette ville des cantons de l'Est. Inquiétante parce qu'il l'a fait en utilisant Twitter, ce qui n'est pas sans nous mettre en tête des images qui nous viennent du sud de la frontière, voilà. Le titre de Ronald de Martel dans la Tribune, Trudeau confirme la voie de contournement sur Twitter. Le premier ministre Justin Trudeau a à son tour pris un engagement ferme pour la construction d'une voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. Nous nous engageons à ce que la voie de contournement de Lac-Mégantic soit aménagée, a-t-il écrit sur son compte Twitter vendredi soir. Le message du premier ministre faisait suite à une conversation téléphonique avec les maires de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac, initiée par le ministre des Transports Marc Garneau, dont l'absence avait été déplorée plus tôt en journée au colloque sur la sécurité ferroviaire organisé par la Fédération québécoise des municipalités à Lac-Mégantic. Merci à la mairesse Julie Morin, au maire Breton de Nantes et au maire Gendron de Frontenac et à Marc Garneau pour l'appel de ce soir, vendredi, a ajouté M. Trudeau. Tous ensemble, trouvons la meilleure façon de procéder. Le porte-parole de la Coalition pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic, Robert Bellefleur, s'est pour sa part dit très étonné du moyen pris par M. Trudeau pour faire cette annonce. Il imite M. Trump, qui se sert de ce moyen pour des fake news. Normalement, on organise une conférence de presse pour une annonce de ce genre. Ça sort de l'ordinaire. On s'interroge sur cette façon d'agir, surtout que c'est un engagement tardif du gouvernement fédéral. Ça leur a pris 5 ans à manifester un engagement, alors qu'ils sont responsables de la tragédie, selon le Bureau de la sécurité des transports, le BST, par leur laxisme envers la MMA, déplore-t-il. Vendredi dernier, on vous parlait du manque de travailleurs au Saguenay qui ralentit les investissements. Le Saguenay n'est pas le seul dans ce cas. Plein de régions au Québec manquent de travailleurs et doivent se tourner vers les nouveaux arrivants. C'est le cas de Green Bay qui a organisé un voyage en autobus pour des nouveaux arrivants et leur montrer la ville. Cynthia Laflamme de La Voix de l'Est nous en parle dans un texte intitulé « Les travailleurs immigrants dans la mire de Green Bay ». Le 27 avril, des autobus transporteront 50 chercheurs d'emploi à Green Bay et leur feront visiter quelques lieux clés de la ville avant de les amener rencontrer des employeurs potentiels. Le but est de leur montrer que Green Bay a une qualité de vie intéressante à offrir en plus d'être à moins d'une heure de Montréal. Une collaboration avec Commerce et Tourisme Green Bay Région permettra également d'offrir un éventail d'emplois non industriels. Green Bay Industriel espère recevoir la visite de 50 immigrants, alors qu'il y en avait eu 34 la première fois en décembre. 7 d'entre eux s'étaient fait offrir un emploi sur le champ et 5 l'ont accepté. Cette fois, la formule sera revue et améliorée. Les entreprises connaîtront à l'avance un aperçu des qualifications des candidats. Ils ne rencontreront ainsi les candidats que les candidats qualifiés pour les postes ouverts. J'ai l'impression qu'on devient meilleur dans le ciblage. En décembre, toutes les entreprises rencontraient tous les candidats, rapporte Patrick Saint-Laurent, directeur de Green Bay Industriel. C'est pour ça qu'on va faire des matchs entre l'offre et la demande. Il faut aussi dire que la première fois, les gens qui sont venus n'étaient peut-être pas nécessairement les plus qualifiés, et pour eux, c'était une première approche dans une autre municipalité. Une fois l'opération séduction réussie, le prochain enjeu de taille est d'intégrer ces travailleurs à leur nouvelle communauté afin qu'ils y demeurent. Selon M. Saint-Laurent, leur communauté montréalaise est une attache parfois assez forte pour qu'ils remettent leur démission et retournent y vivre à temps plein. En décembre, des gens n'étaient pas prêts à déménager et se demandaient comment faire pour voyager à leur travail. Une entreprise qui engage 2 personnes de Montréal ne fera pas comme Fabritec en allant les chercher en autobus. Fabritec emploie un nombre important de Montréalais et de Sherbrookeois et leur fournit effectivement le transport. Solidarité ethnique régionale de la Yamaska, qui siège à la table de concertation de la main-d'œuvre comme une douzaine d'organismes en employabilité, a aussi un rôle crucial à jouer pour s'assurer de l'intégration de ces nouveaux travailleurs, ajoute M. Saint-Laurent, qui croit beaucoup en l'expertise de l'organisme. Tout comme Green Bay Industriel, Solidarité ethnique régionale attend également des nouvelles du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. La directrice générale, Joanne Ouellet, a appris vendredi que son organisme allait recevoir un montant qui viendra bonifier ce qu'il reçoit déjà du programme Mobilisation Diversité pour attirer et assurer la rétention de familles immigrantes dans la région, mais n'en connaît pas l'ampleur. Encore une courte pause, c'est fou le temps qu'on perd entre les nouvelles et on se rejoint pour les actualités culturelles.